le journal Claude Pousset.
Bonsoir et merci de votre fidélité à Radio Okapi, les titres du journal d'abord. La suspension du comité de gestion des lignes aériennes congolaises a suscité la joie des travailleurs. Ils espèrent que le comité provisoire mis en place va trouver des solutions concrètes aux problèmes dont le plus important demeure 140 mois d'arriérés de salaire. La troisième vague de lancement des opérations d'enrôlement des électeurs a commencé hier dans ce journal. Vous suivrez des reportages au Katanga, au Kasai occidental et dans les territoires de Haru en Ituri, malgré le retard ci et là dû à quelques petits problèmes techniques. Deux épidémies déclarées à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Vous suivrez avec Jean-Paul Basila les descriptions sur le choléra à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Encore une fois, bonsoir et merci de votre attention. Trompette, sifflet et cris de joie ce matin au siège des lignes aériennes congolaises entourées des rameaux. C'est à Gombe dans la capitale. Les agents saluaient ainsi la suspension de leur comité de gestion et son remplacement par un comité provisoire sur arrêté du ministre du portefeuille. C'était déjà le samedi dernier. Les agents de l'AC, qui totalisent 140 mois d'impaiement, accusent les membres du comité de gestion suspendus de manque d'initiative. Ils espèrent que le comité provisoire mis en place va trouver des solutions à leurs problèmes. Jean Lalo, président du syndicat, il est au micro de Georges Kamoudjova.
Les travailleurs de l'AC ne réclament pas qu'on leur paye du coup 140 mois de salaire. Mais avec ce que nous générons, nous pouvons être payés régulièrement. C'est pour soulager tant soit peu la misère des travailleurs. Avec une bonne gestion, nous pouvons relancer l'AC. Et surtout qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à la fonction. Et ces opportunités prises en compte, nous pouvons sortir l'AC du bourbier. Et la nouvelle gestion, s'appuyant sur la délégation syndicale et le comité syndical des cadres, nous pensons que quelque chose sera fait.
Notons que les lignes aériennes congolaises, qui emploient plus de 2000 personnes, n'ont pas d'avion. Le ministre du portefeuille estime que les nouveaux gestionnaires devront préconiser la réforme de cette compagnie pour qu'elle puisse répondre aux normes de compétitivité en vue de sa survie et de sa relance. Célestin Vounambandi, interrogé par Georges Kamoudjova.
Que la nouvelle équipe puisse accélérer le processus de restructuration de l'entreprise envisagée au niveau du COTIREP et en concertation avec le ministère du portefeuille.
Est-ce des bons mandataires qui manquent ou ce sont des avions qui font défaut?
Même si l'AC n'a pas d'avion, l'AC c'est une entreprise qui a des ressources potentielles importantes. C'est l'entreprise publique qui a le monopole de droit sur certaines lignes internationales qui reviennent à l'État congolais. C'est là une ressource potentielle très importante qui aurait dû permettre à cette entreprise notamment de conclure un partenariat avec des partenaires viables et fiables. À ce stade, il a manqué des initiatives, des idées en termes d'innovation, en termes de dynamisation de la gestion. Ce n'est pas plutôt les avis qui manquent, ce sont les bonnes idées qui ont manqué.
Vous ne pensez pas que les compagnies privées sont privilégiées au détriment des lignes aériennes congolaises?
Je pense qu'il s'agit là d'une question qu'il faut poser à mon collègue de transport et communication.
À ce sujet, contacté cet après-midi par Radio Capi, Eva Mwakasa, le ministre des Transports et Communications, rassure qu'un plan de réforme des lignes aériennes congolaises est en élaboration au niveau de son ministère. Ce plan, qui vise bien à ramener les lignes aériennes congolaises au niveau de toutes les compagnies aériennes internationales, sera bientôt déposé au niveau du gouvernement. En province orientale, bientôt l'Office congolais des postes et télécommunications OCPT sera touché par la réforme initiée par le comité de pilotage des réformes des entreprises publiques de l'État, COPIREP en sigle. Au terme d'une mission mixte COPIREP-OCPT, 209 agents et cadres de cette entreprise en province orientale ont accepté le principe de départ volontaire, scindé désormais en deux entreprises distinctes ou en deux directions distinctes, la Poste d'une part et les télécommunications de l'autre. L'OCPT attend actuellement des mesures d'application du décret présidentiel portant sa réforme pour un nouveau décollage. Les détails avec Jacques Moukonkolé.
La première étape de cette réforme a été franchie la semaine dernière. Cette première étape consistait au dégraissage de 209 agents et cadres de l'OCPT sur base du volontariat. Hormis les partants volontaires, ceux ayant totalisé 65 ans d'âge requis pour la retraite, ainsi que les décédés, ne font plus partie de cette entreprise. Pour cela, ils ont reçu leur décompte final, excepté quelques cas litigieux qui devront être réglés par la commission, a déclaré le responsable de l'OCPT. CPT Province Orientale. Pour la plupart des partants volontaires, le manque de salaire aura été déterminant dans leur prise de décision.
Bien avant la guerre, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas payés. Et pourtant, nous travaillons, on travaillait jusqu'à présent pour l'office.
Deuxième étape très attendue de la réforme de l'OCPT, c'est la relance des activités. Le personnel est resté en fonction. Au total, 61 employés, agents et cadres confondus, ne savent pas encore grand-chose à ce sujet. Le directeur Balokatoussi a révélé la scission de l'OCPT en deux entreprises distinctes, la Poste et la Télécommunication. Le patrimoine ainsi que le personnel ont été également répartis. Reste, a-t-il dit, à connaître les modalités d'application du décret présidentiel signé à cet effet. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs ont débuté ce matin à Arou, territoire situé à environ 360 km nord de Bounia. Malgré quelques petites difficultés techniques, ça et là, l'opération d'identification se déroule dans le calme, tel que nous dit notre consoeur Lucie Ambanzemboula, qui a fait la ronde des 5 centres retenus pour cette opération. Suivez son reportage.
L'incendie criminel qui a ravagé le bâtiment administratif de Arou n'a eu aucune conséquence sur les débuts des opérations d'enregistrement. À 8h du matin, le premier centre avait accueilli l'administrateur du territoire de Arou, M. Trakana. Jusqu'à 11h45, 45 personnes se sont fait enrôler dans ce centre. Dans le bureau des affaires sociales où abrite le deuxième centre, jusqu'à 11h50, 56 personnes étaient en possession de leur carte d'électeur. À l'IFP Aou, où abrite le troisième centre, 42 personnes se sont fait enrôler. Au quatrième centre, l'opération a démarré en retard. Un ordinateur était verrouillé. Il faudra attendre l'arrivée d'un technicien pour que la situation soit décomptée. Jusqu'aux environs des 12 heures, 30 personnes ont été enregistrées dans ce centre. Au dernier centre, c'est à 10 heures qu'ils ont commencé à installer le matériel. Il n'y a eu que 28 personnes qui possédaient leur carte d'électeur à 12h15. Arou, Lucie Radio Okapi.
Au Katanga, 925 personnes enregistrées pour la première journée sur 24 centres ouverts hier à Lubumbashi. La moisson n'était pas très abondante. C'est plutôt aujourd'hui, en la deuxième journée, que les bureaux semblent accueillir plus de monde, dont beaucoup deviennent impatients. Pour la suite des opérations, le président de la CEI, lui, se dit optimiste. Le point sur le bilan de la première journée de l'opération d'enrôlement et identification des électeurs dans la capitale du cuivre avec Jean Gandou.
Avec 24 centres sur les 49 prévus pour le démarrage des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, 925 personnes se sont faites enrôler pour la journée de dimanche. Le manque d'engouement de la population observé le premier jour n'était qu'une faute de parcours. Tôt ce matin, 7 autres centres ont ouvert les portes dans la commune de Lubumbashi. Côté public, on a noté une forte affluence des candidats à l'enrôlement. Le faible taux de participation de l'Ouchoua remarqué dimanche est dû au fait que certains centres ont ouvert les portes avec plusieurs heures de retard. Au manque d'expertise de la part de certains observateurs de SOSI, le public est devenu impatient et a rebroussé chemin. À la question de savoir comment pallier à cette insuffisance, le président de la commission électorale indépendante répond.
Il n'y a pas d'insuffisance. Mettez-vous à leur place. Les machines exigent quelques jours de familiarisation. Et puis après, tout va se passer avec succès.
Pour cette deuxième journée, 7 autres centres sont ouverts dans la commune de Lubumbashi. Quant aux autres, ils le seront progressivement. Entre-temps, la formation des opérateurs de SOSI continue pour ceux qui ne sont pas encore affectés dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Les opérations d'identification et enrôlement des électeurs ont débuté également hier au Kasaï occidental où une cinquantaine d'opérateurs des saisies venus de Kinshasa est allé renforcer l'équipe locale de ceux qui ont été recrutés sur place dans la province de Kananga. Une correspondance de Julien Nyamouni.
Les 50 opérateurs viennent renforcer l'équipe recrutée localement qui ne maîtrise pas encore suffisamment l'outil informatique. Selon les sources proches du bureau de représentation provinciale, sur 400 opérateurs de saisie recrutés, environ 44 ont été formés sur place à Kananga. D'après Edmond Tambwe Kapumbo, coordonnateur du bureau provincial, certains opérateurs recrutés sur place ont fait montre d'une incapacité technique, par exemple ouvrir tout simplement un ordinateur. La CI, c'est là la nécessité de faire venir des équipes de la capitale pour renforcer la capacité de leurs collègues de l'intérieur en attendant leur adaptation progressive. En plus, il faut que tout se soit rodé pour faire avancer rapidement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. dont le jour sont comptés, seront-ils déployés également à l'intérieur de la province? La réponse à cette question se fait toujours attendre. Julien Nyamwani Kananga, Radio Okapi.
La ville de Goma, affectée par deux épidémies, une épidémie de choléra et une épidémie de rougeole. Plus de 200 cas de rougeole et plus de 200 autres de choléra ont été enregistrés ces deux derniers mois dans différents centres de santé de Goma. Une situation qui inquiète les autorités du Nord Kivu, dont le gouverneur Eugène Serufuli a diffusé un communiqué officiel le week-end pour déclarer les deux maladies comme épidémies. Le point avec Jean-Paul Basila qui donne les causes à la base de ces épidémies.
À la base de la recrudescence de ces deux épidémies à Goma, le manque d'eau potable et l'insuffisance de la couverture vaccinale pour les moins de 5 ans. La ville de Goma connaît en effet un réel problème des manques d'eau potable ces derniers jours. Un problème qui affecte particulièrement le centre de santé, le cas du centre de santé Carmel qui accueille déjà des personnes atteintes du choléra.
En tout cas, depuis le matin, il n'y a même pas une goutte et pour se laver et pour laver les linges des malades, même pas pour boire. Parce que nous avons manqué même un litre pour diluer le sérum oral et pour le donner aux malades. C'est mal le sérum en perfusion que nous donnons, mais pour boire, il n'y en a pas.
Pour les choléras, les malades sont soignés gratuitement au centre de santé de Bouyimba, dans le quartier Lac Vert, au centre de santé Carmel, ainsi qu'à l'hôpital général des références de Goma. Pour la rougeole, les enfants atteints sont aussi gratuitement soignés à l'hôpital Charité Maternelle et au centre de santé Kazop. C'est là grâce à l'appui en médicaments et en matériels médicaux, dont de Médecins Sans Frontières Hollande. De Goma, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Toujours à Goma, en bref, ce matin, une centaine d'anciens soldats candidats à la démobilisation déjà désarmés ont manifesté devant la base de la MONUC à Goma. Ils veulent avoir des kits de démobilisation de la CONADER, la Commission nationale de démobilisation et de réinsertion. Ils sollicitent l'intervention de la MONUC auprès de qui ils déclarent avoir déposé leurs armes pour que si la CONADER ne veut pas accéder à leur demande, la MONUC leur remette leurs armes afin qu'ils aillent eux-mêmes se présenter individuellement à la CONADER comme le voudraient les principes de cette Commission nationale de désarmement et réinsertion. La situation sécuritaire de plus en plus stable à Kabambare, territoire situé à plus de 400 km de Kindu. Les Maïmaï de ce coin du Maniema viennent d'accepter de s'impliquer dans le processus de brassage à Kilembo, sud Kivu. Tandis que les combattants Hutu-Rwandais présents dans ce territoire, eux s'investissent plus dans le commerce de l'alcool dans les carrières des mines. Le point avec Rigobert Yumandouani.
Le Maïmaï qui a sécurisé la population de ce territoire, depuis Penemende jusqu'à Missi, se sont retirés il y a deux semaines. Témoignage du chef de cité de Kabambare, Assoumani Mishinga.
Les autorités ont tout fait pour regrouper ces Maïmaï sur Kilembwe et Fisi, là où ils attendent le brassage. Bon, ils étaient localisés à partir de Penemende, Limba, Kabeya jusqu'à Missi.
Les Maïmaï partent, mais d'autres combattants étrangers sont encore là. Ce sont des combattants Hutu rwandais dont le nombre exact n'est pas connu. Ils sont toujours présents dans la collectivité de Babouyou, mais selon le chef de poste d'encadrement administratif et administrateur en intérim, M. Saïdi Paoni Olivier, ils s'adonnent beaucoup plus aux activités commerciales.
Surtout, ils font les ventes de boissons alcooliques et ils amènent des boissons alcooliques au niveau des carrières appelées Lunga. Et pour le moment, leur action pour la population et tout, ils font le commerce.
Et c'est à la grande satisfaction de la population de Kabambare qui vit depuis quelques semaines déjà sans les bruits des fusils. Kindu, Rigobert Yumandouani Walumba, Radio Kapi.
Actualité en bref, en dehors de nos frontières, les avocats des partis civils au procès des disparus du Beach de Brazzaville ont commencé ce lundi à défendre leurs clients devant la cour criminelle. Maître André-François Quenum est le premier des cinq avocats des partis civils à avoir pris la parole. Cela fait 6 ans que nous portons le deuil, a-t-il dit. Nous sommes prêts à pardonner. Nous attendons que la vérité éclate et qu'on désigne les auteurs, a-t-il ajouté. Sidi Mohamed Hould Boubacar, c'est le nom du nouveau premier ministre du gouvernement de transition mauritanien, le gouvernement issu d'un coup d'État dirigé par le colonel Eli Ould Mohamed Val, qui a renversé mercredi dernier l'ancien président Mahaouya Ould Taïa. Les mines d'or d'Afrique du Sud, paralysées par une grève qui touche 75% de leurs effectifs, ils exigent des hausses de salaire. Cette grève qui touche entre 80 000 et 100 000 mineurs sur un total d'environ 130 000 risque d'avoir des graves conséquences pour l'économie de l'Afrique du Sud, plus gros producteur mondial d'or. Si cette grève devait se poursuivre, ce mouvement coûte en effet quelque 16 millions d'euros par jour à l'industrie sud-africaine de l'or. C'est donc ici que nous mettons un point final à cette tranche d'information du soir, la première en français. Nous vous retrouvons à 8h du soir ou à 20h pour la deuxième édition. Il est donc 18h15 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.